La Voix Royale par André Malraux, quatrième cassette, première face, page 122.
Écoute, Grabeau, toi qui les connais, nous sommes dans la case qui est à droite de celle du chef. Ils ont l'air de commencer à se remuer. Que vont-ils faire? Réponds, quoi! Tu as bien compris? Silence. Un moustique bourdonna dans l'oreille de Perken, qui se gifla, exaspéré. Enfin cette voix. Qu'est-ce que ça peut foutre? Tu veux rester ici? Il fit non de la tête, absurdement. Sans regard qui soutint la négation, le mouvement du cou était animal comme un mouvement de taureau, comme l'expression de sa voix, si peu humaine. Qu'est-ce que ça peut foutre maintenant? Maintenant que tu es, que... Maintenant que tout, quoi. Ça peut s'arranger. Et leurs vaches de chiens à qui ils ont fait bouffer mon œil, on les arrangera? Des lignes pointues parurent, dépassant l'ouverture. De nouvelles lances au fond de la place. On est avec qui dans la case? Il y a toi, l'autre qui est sûrement un petit jeune, et l'autre, le boy. C'est tout. Et eux, ils sont autour. Je ne vois que la place. De deux coups de couteau, Perken fit de minces trous dans la paroi. Il n'y en a pas des autres côtés. Ça viendra. À la nuit, ils n'ont qu'à allumer là-dessous. C'est presque comme ça que ça m'est arrivé. Pour ce que ça peut foutre. Silence. La hachure des lances avait disparu. Là-bas, les guerriers s'étaient accroupis. Comment tirer quelque chose, se demandait Claude. Vous tenez à crever ici? Il secouait ses poings. Ses poings que Grabeau ne voyait pas. Prisonnier cette fois de son univers de forme, comme l'autre de sa tête murée. Comment convaincre un aveugle? Il ferma ses propres yeux, serrant ses paupières, cherchant d'autres mots. Mais Grabeau répondait. Si vous en descendez un, passez-le-moi. Attaché. Claude épiait une lance qui venait de reparaître. Mais le dernier mot fut si saisissant qu'il l'abandonna. Féroce, venu d'un tel abîme d'humiliation, non pas bestial, atroce avec simplicité. Cette âme que dans la case rien n'avait pu appeler ne revenait-elle que pour être la conscience de la plus atroce déchéance? Et ses rêves de supplice, les doigts réunis de cette main crispée en pointe, tous les ongles ensemble, sur quel œil a écrasé? Elle tremblait au bout du bras. Rien sur le visage, mais les doigts des pieds se recroquevillaient. Ce corps savait parler. Dès que s'était ouverte la case de la meule, cette main tendue pour manger, ce dos habitué au caveçon. Et seulement de ce qu'il avait souffert. Son langage de chair était si puissant que Claude oublia une seconde que c'était eux que les supplices attendaient de l'autre côté. Il ne pouvait rien contre le feu. Rien. Le cri d'un paon s'éleva, P.A.O.N. bien sûr, perdu dans le calme intense du ciel. Les moilles, accroupis, eussent semblé somnolents sans leur regard de chasseur. Et sur tous ces regards, l'air se tendait à l'extrême, comme un épervier immobile dans le ciel. Tant que le jour durerait...
Vous croyez qu'ils mettront le feu, Perken?
Pas de doute. L'autre ne parlait plus. Ils attendent quelque chose, ou l'arrivée du chef, ou le soir, ou les deux. Tu peux être sûr qu'ils ont confiance. Claude crut d'abord que Perken avait parlé à Grabeau
à cause du tutoiement. Alors, est-ce qu'il ne voudrait pas mieux tirer dessus et tâcher de gagner la porte? Nous avons pas mal de cartouches, une chance sur 100, je sais bien. Peut-être auront-ils assez la frousse pour... Au deuxième type descendu, tous les autres seront embusqués d'abord. Ensuite, plus de pourparlers possible. On ne sait jamais, ils pensent que nous avons rompu le serment du riz en cherchant Grabeau, mais ils ne doivent pas en être très sûrs, il faut voir. Enfin, ils sont encore plus forts en forêt qu'ici. Crever pour crever, autant en descendre quelques-uns. En voilà deux qui s'amènent par ce trou-ci, et quatre, cinq, oh, six, huit, c'est tout. De l'autre côté, ça s'annonce bien. Et si on essayait de filer par là, après tout, la barricade? La forêt! Claude se tut à nouveau. Perken écoutait. Un seau de chaudron roulé arrivait jusqu'à eux. Ils ne tenteront pas l'incendie avant la nuit, reprit-il. Notre seule chance, c'est de filer à la tombée du jour. Combattre en profitant de la nuit avant que... J'aurais quand même un sacré plaisir à en descendre quelques-uns. Celui qui se balade là-bas tout seul, mon revolver en dresse les oreilles. T'es sûr qu'il ne faut pas s'occuper de lui ? Il montra la place des balles dans le chargeur. Il en restera toujours deux. C'était Grabeau. Une voix seule pouvait donc à ce point exprimer la haine. Cet homme qui était là avec eux. Et il n'y avait pas que la haine. Il y avait aussi la certitude. Claude, atterré, le regardait. Cette peau décolorée d'homme de quart, mais ses épaules de lutteur. Une puissante ruine. Et il avait été plus que courageux. Celui-là aussi pourrissait sous l'Asie comme les temples. L'homme qui avait osé détruire l'un de ses yeux, tenter de pénétrer seul, sans garantie, en une telle région. Ça n'ira toujours pas plus loin que mon revolver. L'épouvante rôdait auprès de lui, en cette seconde, autant qu'auprès des moyens. Bon Dieu, il n'est pourtant pas impossible de... Con ! Bien plus que l'injure et même que la voix, la tête ravagée de Grabeau disait « On ne peut pas quand c'est inutile, et quand c'est nécessaire, il arrive qu'on ne puisse plus. Suffit de vouloir. » Il s'agissait d'une chose où lui, Claude, avait très peu de place. La main en dehors, le canon tourné vers sa tête, il éleva son revolver, bien qu'il sentît son absurdité, qui sut que s'il avait tiré, il aurait tourné l'arme au dernier moment contre Grabeau, pour supprimer ce visage, cette haine, cette présence, pour chasser cette preuve de sa condition d'homme, comme l'assassin qui coupe son doigt révélateur. Il sentit soudain le poids du revolver et laissa retomber sa main. L'absurdité se retirait de lui avec une puissance de flot. Sur ces débris, les ombres sinistres du bout de la place, les lances et les cornes sauvages plaquées sur le ciel semblèrent pour la première fois sans force. Un instant. Il suffit qu'un moï se leva. Il faillit tomber, s'accrocha à son voisin qui cria. Le son, étouffé par la distance, traversa lentement la clairière et la libéra de son aspect d'embuscade pétrifiée. De l'autre côté, les moïs devenaient plus nombreux, mais, accroupis ou en mouvement, armés d'arbalètes ou de lances, ils s'arrêtaient toujours à la lisière de la place, serrés, grouillants, près de cette ligne mystérieuse, tels des chiens, des loups, comme si quelque pouvoir occulte leur interdit de la franchir. Le temps seul vivait, écrasant, sur cette place vide. Les minutes étaient prisonnières de ce cercle de brutes qui prenait un caractère d'éternité, comme si rien ne dût plus arriver par le monde qui pût franchir leur tête, comme si vivre, subir les heures et celle qu'annonçait la décoloration du ciel, cette tombée du soir qui précéderait de peu l'incendie, n'eût été pour les Blancs que de subir de plus en plus irrécusablement
l'oppression de cette barrière de vie dressée devant celle des dieux géants, que comprendre davantage quelle préparation à l'esclavage était cet emprisonnement. Traqué. Comme les têtes des fauves à l'affût, celles-ci ne vivaient que par les regards qui convergeaient sur la case comme sur le centre d'un piège. Claude ne fixait pas une tête dans le rond des jumelles qu'il n'en rencontra aussitôt les yeux. La lorgnette abaissée, ses regards de brutes avides se perdaient dans l'éloignement, mais il restait en face de ses paupières plissées, de ses coups tendus de chien. De nouveaux guerriers venaient de paraître, appuyés sur leurs arbalètes, comme si leurs compagnons se fussent dédoublés. Ils avançaient en fourmi, toujours le long de la ligne mystérieuse, vers la gauche. La paroi de la case les masquait. Perken la troua. Presque sous ses yeux, un tombeau surmonté de deux grands fétiches à dents. Hommes et femmes, tenant à pleine main leur sexe peint en rouge, au-delà, une case. Les Moïs, sans nul doute, avançaient derrière cette case qu'ils allaient occuper. Mais des clés ayant été posées sur ses ouvertures, elles demeuraient sans mouvement. La ligne des Moïs disparaissait derrière elle comme dans une trappe, et ce remous, qui peu à peu allait s'approcher, se dirigeait, dès qu'il cessait de le voir, vers cette façade bourdonnante et murée comme un nid de guêpes, au-delà de ces deux sexes de bois où s'encastraient des doigts recroquevillés. Cette façade aussi vivait, sournoise, immobile, chargée de tout ce qu'elle cachait, de ces sous-hommes qui disparaissaient derrière elle, tout à coup transformés en néant menaçant. « À quoi ça peut-il bien les avancer ?» chuchota Claude. « À se rapprocher ?»« Ils ne seraient pas si nombreux. » Perken reprit les jumelles. Presque aussitôt, il fit de la main un geste dans l'air, comme pour appeler Claude, mais ramena sa main afin que la jumelle ne bougeât pas. Puis il la lui passa. « Regardez les coins. » Alors, plus bas, près du plancher. Qu'est-ce qui vous inquiète? Les machines qui passent ou les espèces de trous? C'est la même chose. Les machines sont des arbalètes. Les trous sont là pour en passer d'autres. Et alors? Il y en a plus de 20. Quand nous tirerons, ce ne sont pas les clés qui protégeront les bons hommes. Ils sont couchés. Nous perdrons beaucoup de balles, et d'ailleurs, il fera nuit. Eux, nous verrons, parce que cette case-ci brûlera, mais nous ne verrons presque rien. Alors, pourquoi tant d'histoires? Ils n'avaient qu'à rester où ils étaient. Ils veulent nous avoir vivants. Claude, fasciné, regardait l'énorme piège, sa masse, ces bois courbes d'arbalètes qui sortaient à sa base comme des mandibules. À peine entendit-il la voix de Xa qui parlait à Perken. Celui-ci reprit les jumelles. À son tour, Claude chercha dans la même direction, au fond de la clairière. Nombre de Moïs s'étaient courbés vers le sol, comme pour repiquer des plantes. Les autres marchaient avec grand soin, pliant les genoux, levant très haut les pieds comme des chats. Il se retourna vers Perken, interrogatif. Ils plantent des lancettes de guerre. Donc ils attendaient bien la nuit et prenaient leurs précautions. Et combien de travaux semblables se préparaient ou se poursuivaient derrière la case, derrière la ligne fourmillante de ces corps penchés? Empêcher les Moïs d'incendier leur case, il n'y fallait pas songer. Le feu allumé, ils ne pourraient que se lancer en avant, contre les arbalètes, ou à droite, vers les lancettes de guerre. Au-delà, les pieux de l'enceinte, et au-delà, la forêt.
Rien à faire sinon en tuer le plus possible. Ah, ces sangsues qui se tordaient si bien en grésillant sur les allumettes. Il n'y avait rien à faire que ce qu'avait conseillé Perken. Tenter de fuir à la tombée du jour, quelques instants avant l'incendie. Resterait la forêt. Mais cette fuite même, quelles étaient ses chances contre les lancettes de guerre? Claude regardait les charrettes. Les charrettes, les pierres. Recommencer. Sortir d'ici d'abord ou être tué. N'être pas pris vivant. Que plante-t-il encore? Il s'agitait de nouveau au fond de la clairière, lance croisée. Il ne plante rien, c'est le chef qui revient. Perken passa les jumelles à Claude une fois de plus. L'agitation rapprochée ainsi restait ordonnée. Rien ne distrayait les moilles de leur but. L'extrême tension de l'atmosphère, l'hostilité de ce qui baignait dans l'air, comme si tous ces gestes tendus vers eux se fussent ramassés en une seule âme, tout convergeait des êtres à l'affût vers ces hommes acculés. Et quelque chose, dans la case même, s'accorda tout à coup à cette âme acharnée, Perken. Il était fixé comme par un instantané, le regard perdu, la bouche ouverte, tous les traits affaissés. Plus rien d'humain dans la case. Effondré dans son coin, Xa attendait, plié en bête. Grabot, qui continuait à se taire. Autour, ces gueules de fauves, cet instinct de sadique, précis et bestial comme ce crâne de gore à dents de mort. Et Perken, pétrifié. L'épouvante de l'être écrasé de solitude saisit Claude au creux de l'estomac, au défaut des hanches, l'épouvante de l'homme abandonné parmi des fous qui vont bouger. Il n'osa pas parler, mais toucha Perken à l'épaule. Celui-ci l'écarta sans le regarder, avança de deux pas et s'arrêta en plein encadrement de l'ouverture à portée de flèche. « Attention !» Perken n'entendait plus. Ainsi, cette vie déjà longue allait se terminer ici dans une flaque de sang chaud ou dans cette lèpre du courage qui avait décomposé Grabot, comme si rien, dans aucun domaine, n'eût pu échapper à la forêt. Il le regarda. Le cou sur la poitrine, le visage caché par les cheveux, l'aveugle marchait lentement en rond, comme autour de la meule, une épaule en avant, retournée à son esclavage. Perken était harcelé par son propre visage, tel qu'il serait peut-être demain, les paupières à jamais abaissées sur les yeux. Pourtant, on pouvait combattre, tuer enfin. Cette forêt n'était pas qu'un foisonnement implacable, mais des arbres, des buissons, derrière lesquels on pouvait tirer, mourir de faim. La folie lancinante de la faim qu'il connaissait n'était rien auprès des meules endormies avec leur harnais d'esclaves dans le village. Dans la forêt, on pouvait se tuer en paix. Toute pensée précise était anéantie par ces têtes aux aguets. L'irréductible humiliation de l'homme traqué par sa destinée éclatait. La lutte contre la déchéance se déchaînait en lui, ainsi qu'une fureur sexuelle, exaspérée par ce grabot qui continuait à tourner dans la case, comme autour du cadavre de son courage. Une idée idiote le secouait. Les peines de l'enfer choisies pour l'orgueil. Les membres rompus et retournés. La tête retombée sur le dos comme un sac. Le pieu du corps à jamais planté en terre. Et le désir forcené que tout cela existât pour qu'un homme, enfin, pût cracher à la face de la torture, en toute conscience et en toute volonté, même en hurlant. Il éprouvait si furieusement l'exaltation de jouer plus que sa mort, elle devenait à tel point sa revanche contre l'univers, sa libération de l'état humain, qu'il se sentit lutter contre une folie fascinante, une sorte d'illumination. Aucun homme ne tient contre la torture, traversa son esprit, mais sans force, comme une phrase liée à un cliquettement inexplicable. Ses dents qui claquaient. Il sauta sur la claie, hésita encore une seconde, tomba, se redressa, un bras en l'air, tenant son revolver par le canon, comme une rançon. Fou !
Claude, la respiration coupée, le suivait du canon de son arme. Perken marchait vers les meules, pas à pas, tout le corps raidi. Le soleil abaissé lançait sur la clairière de longues ombres diagonales avec un dernier reflet sur la crosse du revolver. Perken ne voyait plus rien. Son pied rencontra un buisson bas. Il fit un geste de la main comme s'il eût pu l'écarter. Il ne suivait pas le sentier. Continua d'avancer, tomba sur un genou, se releva, toujours aussi raide, sans avoir lâché le revolver. La piqûre des plantes fut si aiguë qu'il vit une seconde ce qui était devant lui. Le chef inclinait la main vers la terre, opiniâtrement. Posait le revolver. Il était là-haut dans sa main. Enfin, il parvint à plier le bras, prit l'arme de l'autre main comme pour la détacher. Ce n'était plus de l'hésitation, il ne pouvait plus bouger. Enfin, elle s'abaissa d'un coup et s'ouvrit, tous les doigts tendus. Le revolver tomba. Quelques pas encore. Jamais il n'avait marché ainsi, sans plier les genoux. La force qui le soulevait connaissait mal ses os. Sans la volonté qui le jetait vers la torture, avec cette puissance d'animal fasciné, il eût cru dériver. Chaque pas des jambes raidies retentissait dans ses reins et son cou. Chaque herbe arrachée par ses pieds qu'il ne voyait pas l'accrochait au sol, renforçait la résistance de son corps qui retombait d'une jambe sur l'autre avec une vibration que coupait le pas suivant. À mesure qu'il s'approchait, les moilles inclinaient vers lui leurs lances qui luisaient vaguement dans la lumière mourante. Il pensa soudain que sans doute, il n'aveuglait pas seulement leurs esclaves, mais les châtrait. Une fois de plus, il se trouva planté dans le sol, vaincu par la chair, par les viscères, par tout ce qui peut se révolter contre l'homme. Ce n'était pas la peur, car il savait qu'il continuerait sa marche de taureau. Le destin pouvait donc faire plus que détruire son courage. Le grabot était sans doute un double cadavre. La barbe, pourtant, il voulut se retourner absurdement pour le regarder encore. Il ne vit que le revolver. L'arme était tout près du sentier, presque au centre d'une plaque d'argile dénudée, comme si elle eût brûlé l'herbe autour d'elle. Capable de tuer 7 de ses hommes, capable de toutes les défenses, vivante, il revint vers elle. Les bois courbes des arbalètes brillèrent un instant dans l'air rouge de la clairière. Donc, il y avait sans doute un monde d'atrocité au-delà de ses yeux arrachés, de cette castration qu'il venait de découvrir. Et la démence comme la forêt à l'infini derrière cette orée. Mais il n'était pas encore fou. Une exaltation tragique le bouleversait, une allégresse farouche. Il continuait à regarder vers la terre, à ses guêtres arrachées, à ses lacets de cuir tordu, collait absurdement l'image ancienne d'un chef barbare prisonnier comme lui, plongé vivant dans la tonne aux vipères et mourant en hurlant son chant de guerre, les poings brandis comme des nœuds rompus. L'épouvante et la résolution s'accrochaient à sa peau. Il lança son pied sur le revolver qui courut un mètre en clochant, rebondissant de crosse en canon comme un crapaud. Il repartit vers les Moyes. Claude, haletant, le tenait dans le rond des jumelles comme au bout d'une ligne de mire. Les Moyes allaient-ils tirer? Il tenta de les voir d'un coup de jumelle. Mais sa vue ne s'accommoda pas aussitôt à la différence de distance, et sans attendre, il ramena les jumelles sur Perkin, qui avait repris exactement sa position de marche, le buste en avant, un homme sans bras, un dos incliné de tireur de bateau sur des jambes raidies. Lorsqu'il s'était retourné une seconde, Claude avait revu son visage si vite qu'il n'en avait saisi que la bouche ouverte, mais il devinait la fixité du regard à la raideur du corps, aux épaules qui s'éloignaient pas à pas avec une force de machine. Le rond des jumelles supprimait tout, sauf cet homme. Le champ de vision dérivait vers la gauche. D'un coup de poignet, il le ramena. Une fois de plus, il perdit Perkin. Il le cherchait trop loin, dans une des longues traînées du soleil. Perkin venait de s'arrêter. Un instant, la ligne des Moyes vers lesquelles il marchait lui était apparue sans épaisseur. Nette, à hauteur des têtes, mais perdue à sa base dans le brouillard qui commençait à monter du sol. Un dernier reflet brillait en tremblant sur ces choses mobiles, comme lié à l'angoisse haletante des hommes contre la paix du soir. Sa main vide maintenant se fermait, molle, aussi légère qu'une main de malade, comme s'il eût encore cherché une arme. Et soudain, son regard rencontrant la cime des arbres où s'étendait longuement la dernière rougeur du soleil, tandis qu'au ras de terre l'immobile agitation continuait, la passion de cette liberté qui allait l'abandonner l'envahit jusqu'au délire. Au bord de l'atroce métamorphose qui l'obsédait, il se raccrochait à lui-même, les mains crispées s'enfonçant dans la chair des cuisses, les yeux trop petits pour l'invasion de toutes les choses visibles, la peau comme un nerf. Jeté sexuellement sur cette liberté à l'agonie, soulevé par une volonté forcenée se possédant elle-même devant cette imminente destruction, il s'enfonçait dans la mort même, le regard fixé sur le rayon horizontal qui, là-haut, s'allongeait de plus en plus, délivré de ces ombres sinistres et vaines dont l'affût se perdait dans l'obscurité qui montait de la terre. La lueur rouge du soleil s'allongea d'un coup comme une ombre. Le jour décomposé, qui précède de quelques instants la nuit des tropiques, s'effondra sur la clairière. Les formes des Moyes se brouillèrent, sauf la ligne des lances, noire sur ce ciel mort, et dont le reflet rouge était parti. Perkin retombait entre les mains des hommes, face à face avec ses formes haineuses, avec l'apparition sauvage de ses lances. Et soudain, tout chavirant à la fois, il entendit sa propre voix qui criait et se sentit saisi. Non. La sensation due à la crainte et non à la peau disparaissait, mais cette douleur de blessure, enfin il comprit car l'odeur de l'herbe l'envahissait. Il était tombé, un pied arrêté par une fléchette de guerre sur d'autres fléchettes. D'un poignet déchiré, le sang coulait. Il se releva, sur les mains d'abord, il était sûrement blessé au genou. Les Moyes avaient à peine bougé, un peu plus près de lui pourtant. Avait-il voulu se jeter sur lui, les avait-on arrêtés? Dans la pénombre, il ne voyait distinctement que le blanc de leurs yeux, mobiles, sans cesse ramenés vers lui. Un troupeau, si près. Que l'un sauta, il était à portée de lance. La douleur apparaissait à la fois aiguë et engourdissante, mais il se sentait délivré de lui-même. Il revenait à la surface. Les Moïs tenaient leur lance des deux mains en travers de leur poitrine, comme lorsqu'ils s'approchent des fauves. Et il respirait comme une bête. Dans sa poche, il avait toujours le petit Browning. Tiré sur le chef sans en sortir, et après, impossible de s'appuyer sur sa jambe blessée. Reposant sur l'autre, il la laissa pendre, mais le poids du pied la tirait et un élancement aigu envahissait le genou. Il montait à intervalles réguliers, d'un mouvement mou et lancinant, lié au battement du sang qui des tempes retentissait dans sa tête. Et un grand mouvement s'était fait autour de lui, dont la conscience l'envahissait comme si elle eût été appelée par la douleur. Les Moïs s'étaient rapprochés derrière lui, le séparant de Claude. Ne l'avait-il laissé avancer jusqu'ici que pour cela? Chapitre 4, page 136. Il était devant eux. Le chef ne le quittait pas du regard, d'un regard que le frémissement des paupières rendait papillotant, guettant maintenant son prochain mouvement. Sa main droite valide tenait toujours le petit Browning, prêt à tirer à travers la toile, gêné par un réflexe qui l'obligerait à soutenir la poche, comme s'il eût pu diminuer ainsi le poids de la jambe blessée. Il étendit la main gauche vers le guide, debout à côté du chef. Le sauvage leva vers cette main qui s'avançait son sabre oblique, mais il comprit que le geste était pacifique. Le sabre toucha presque la main, dont le sang, goutte à goutte, tombait par terre sans le moindre son, puis s'abaissa. « Savez-vous que cet homme vaut 100 jarres ?» cria Perkel. Le guide ne traduisit pas. L'impuissance tomba sur Perkin comme une révélation. Prendre cette brute par le cou, la secouer, la faire parler. Traduis, bon Dieu ! Le guide le regardait, la tête enfoncée entre les épaules, comme s'il eût eu plus peur de ses paroles que du combat. Perkin devina qu'il ne comprenait pas. Il avait parlé trop vite, dans un siamois non déformé, et le cri rendait plus difficile la distinction des tons. Il reprit, s'efforçant à la lenteur. « Toi, dire chef !» Il séparait les mots, exaspéré par sa respiration précipitée qui battait les syllabes. Les yeux fixés sur ceux de l'interprète, maladroit devant ce regard de sauvage, il tentait de deviner. Le Moï inclinait légèrement l'épaule vers le chef, comme s'il allait parler. « Homme blanc, aveugle, valoir !» comprenait-il. Sa destinée à lui, Perkin, se jouait sur cette masse vivante. Sa vie aboutissait comme à un passage, à ses jambes couvertes d'eczéma, à ce pagne ignoble et sanglant, à cette humanité capable seulement de pièges et de ruses, ainsi que les bêtes de la forêt. Il dépendait totalement de cet être, de ses pensées de larve. Quelque chose en cet instant vivait sourdement dans cette tête, comme s'ouvrent les œufs de mouche pondus dans le cerveau. Depuis une heure, il n'avait pas eu une aussi violente envie de tuer. « Valoir !» Plus de 100 jarres. Enfin, il traduisit. Le vieux chef ne fit pas un geste. L'immobilité de tous était telle qu'il semblait que la nuit seule ne se fût pas arrêtée, qu'on la vit monter vers le ciel. Comme lors des rites du matin, toute la vie de ce lieu séparé du monde se suspendait à l'ombre silencieuse du chef. Pas un cri d'animal ne venait des profondeurs des feuilles qui paraissaient se prolonger dans ce silence et cette immobilité jusqu'aux limites de la terre. Perken attendait un geste de la main. Mais non. Il se rapprochait de l'interprète, parlait. L'homme traduisit aussitôt. Plus de 100 ? Plus ! Le chef réfléchissait, remuant les dents sans arrêt comme un lapin. Il releva la tête. Un cri venait d'arriver du fond de la clairière. Perken ! Claude ne le voyait plus et l'appelait. Dans quelques minutes, la nuit serait tombée. Il serait perdu si leur dernière chance, l'échange, leur échappait. « Viens !» Perken avait lancé ce mot de toute sa voix. Le chef le regardait, méfiant, agitant toujours ses gencives, menaçant dans le silence retombé. « Je l'appelle !» dit Perken à l'interprète. « Sans armes, » répondit le chef. « Prends seulement le petit Browning !» cria Perken en français. Le combat continuait. Un rond lumineux parut dans les ténèbres grises où mourait la voix. Claude avait allumé sa lampe électrique. On ne le voyait pas, on n'entendait pas le moindre bruit de buissons écrasés. Seul ce rond avançait en zigzagant, toujours à la même hauteur, accompagnant le liquide claquement du sang dans les veines des tempes dont Perken ne parvenait pas à se délivrer. La lumière suivait le sentier sans nul doute. Relevé d'un coup, elle abandonna le sol, passa en fauchant sur les hommes assemblés, revint au sol chercher la piste. Tous ces êtres sortis un instant des ténèbres, les points blancs des dents allumés tout à coup, les bustes inclinés vers Perken retombèrent à leur rôle d'ombre. Perken commençait à souffrir. Il s'assit par terre, non sans peine. Les élancements devinrent moins fréquents. La lampe électrique s'éteignit. Claude, à quelques mètres à peine, écrasait des feuilles en avançant. Perken, les jambes allongées, la tête près du sol, ne voyait que la masse de la forêt où se perdaient toutes les formes proches et la grille des lances sur le ciel. Des paroles rôdaient autour de lui comme une discussion étouffée. « Tu es blessé ?» c'était Claude. « Non, enfin, si, pas gravement. Assieds-toi à côté de moi et éteins ça. » Les Moïs, d'ailleurs, préparaient un grand feu. Perken résuma. « Tu as proposé plus de 100 jars. Combien y a-t-il de guerriers ?»« De 100 à 200. » Ils ronchonnent. « Que crois-tu qu'ils disent ?» Les paroles, en effet, continuaient à rôder, plus gutturales. Deux voix se détachaient des autres, plus hautes, affirmatives. L'une était celle du chef. « Je pense que le chef et le propriétaire de Grabeau discutent. Que défend le chef ? Le village en bloc ? Sans doute. Si on proposait une jarre pour chaque guerrier et 5 ou 10, ce que tu voudras, pour le village. » Aussitôt, Perken fit la proposition. L'interprète avait à peine traduit qu'un murmure envahit l'ombre. Chacun parlait, faiblement d'abord, puis jusqu'au jacassage furieux. Les lances s'agitaient maintenant sur le ciel criblé des mêmes étoiles que la veille. Elles disparurent. La flamme du bûcher venait de jaillir en chemintant, fouettant tout de ses battements inégaux. Elle montait et des têtes apparaissaient, nettes au premier plan, perdues au dernier. Presque tous les guerriers étaient là, fous de parole, délivrés tout à coup des blancs. Chacun parlait pour soi, de plus en plus haut, les bras immobiles mais agitant la tête. Le feu, à intervalles égaux, engloutissant le bruit des castagnettes étouffées des paroles, replaquaient ses accents rouges sur leur tête de vieux paysans, ou reparaissaient soudain, plus vite que la montée de la flamme, le regard fixe de chasseur. Le jacassage entourait un cercle muet. Dans ce trou de silence, les anciens accroupis autour du chef, les bras très longs comme ceux des singes, parlaient l'un après l'autre. Claude ne les quittait pas du regard, anxieux de l'expression de leur visage qu'il voulait traduire, qu'il abandonnait, expression aussi étrangère que la langue qu'il parlait. L'interprète vint vers Perken. « L'un de vous partira, l'autre restera jusqu'à son retour. »« Non !»« Un seul peut mourir en chemin, » fit ajouter Claude. « Alors pas d'échange. » Le Moy repartit, heurtant la jambe blessée de Perken qui faillit crier. La douleur de nouveau s'engourdit. Les palabres avaient repris. « À la rigueur, » dit Claude, « non, je connais les sauvages. S'ils espèrent vraiment, les vieux ne pourront pas tenir contre le village. Et l'important est de gagner du temps. S'il faisait jour, j'aurais d'autres moyens. » Le jacassage se perdit soudain dans des voix étouffées, comme celui des oiseaux dans l'envol. Tous regardaient le groupe des anciens. En même temps que les têtes se tournaient, les bouches demeurées ouvertes pendant le discours des voisins se fermaient d'attention. « Aucune tribu ne possède une jarre par homme !» cria Perken en siamois. L'interprète traduisit. Le chef ne répondit pas. Nul ne bougeait. L'attente s'étendait, hostile, comme des ronds dans l'eau. Les guerriers guettaient le chef. Perken voulut se lever, mais il craignait de marcher avec trop de peine et d'affaiblir ainsi ses paroles. Il cria encore, « Nous serons sans escorte, les jarres !» L'interprète vint à lui, suivi du mouvement unanime des têtes. « Les jarres viendront dans des charrettes, pas d'escorte !» Il s'arrêtait après chaque phrase pour que la traduction fût faite aussitôt. « Trois hommes seulement !» Faites l'échange dans une clairière que vous indiquerez. » Claude avait à tel point l'habitude de voir les blancs approuver de la tête que l'immobilité de ses visages, aussitôt après le mouvement qui venait de les tourner vers eux, le heurta comme un refus. « Ça doit pourtant les séduire, » murmura-t-il, « de posséder chacun la sienne. » Ils ne se rendent pas bien compte. Que se passait-il ? Des mois se levaient. Hésitant, le dos encore courbé, un bras vertical tendu vers le sol sur quoi il venait de s'appuyer, et se dirigeait vers la case d'où venaient les blancs, leur ombre devant eux. Trois, quatre, ils se confondirent avec la masse des arbres. Seule la supérieure des lances se voyait encore sur le ciel étoilé. Les autres attendaient, tendue par une attente si contagieuse qu'elle gagnait les blancs. Au-dessus de la barre ondulée des arbres, Claude guettait le retour des lances. Des cris arrivèrent, auxquels répondit une clameur satisfaite. Les pointes surgirent un instant, croisées, près d'une étoile très claire, descendirent, remontèrent, de plus en plus grandes. Les hommes entrèrent dans la lumière rouge, attachés à la nuit par leurs ombres qui s'y perdaient. Perken reconnut parmi eux le maître de Grabot. Il était allé s'assurer de la présence de son esclave et les autres avaient craint qu'il ne se fût enfui. Il voulait retourner à la cave. Deux guerriers le tenaient par les poignets, tous trois criaient, mais Perken ne les comprenait pas. Enfin, ils s'accroupirent. Les palabres recommencèrent et de nouveau, une absurde atmosphère de discussion paysanne s'établit sur la férocité sans la recouvrir tout à fait. « Ça va durer longtemps ?» demanda Claude. « Jusqu'à ce qu'ils éteignent le bûcher, à l'aube, toujours l'heure des décisions propices. » Fin de la deuxième piste de la quatrième cassette, page 142, La Voix Royale par André Malraux.